Vraiment, toutes nos excuses pour ce retard phénoménal dans les horaires. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, mesdames et messieurs, nous avons convenu avec nos amis de la Ligue tunisienne, Mokhtar Trifi, de la TFD, Sana Ben Achour, de Maghreb Égalité, Ali Chef Chameri. Et puis, en attendant d'ailleurs l'arrivée de notre ami Siham Bessedrine, nous avons convenu donc pas du tout. Nous avons convenu de réorganiser un peu la séance d'ouverture de cette deuxième partie. Peut-être avons-nous commis quand même une erreur. On aurait dû dire une plénière, donc on appelait l'ouverture parce que l'ouverture est déjà faite, mais quand même bon. Alors, donc, dans ce cas. Nous avons donc quatre interventions, celle donc sur l'impact régional sur les acteurs de la transition démocratique en Tunisie. D'impact régional, on parle de l'environnement essentiellement arabe de la Tunisie. C'est Mohamed Hassan de l'Institut du Caire pour les études du droit de l'homme qui le fera. Nous aurons aussi une courte intervention sur la société civile en tant que facteur décisif de la transition démocratique. Ce sera donc, comment ? Au nom du CRLDHT, c'est Edith Jandoubi, universitaire, membre du comité pour le respect des libertés de droits de l'homme en Tunisie. Et nous aurons donc le plaisir d'avoir aussi parmi nous et de Abdelhab Marsoud Rachidi, qui est le président de la plateforme Euromed des ONG. Mais bien avant, je voudrais quand même donner la parole à Souhir, parce qu'il faut. Tu souhaites pas parler.
Je t'ai dit que je n'allais pas parler.
Donc elle ne veut pas parler, donc elle n'a pas la parole. Donc, on va donc commencer. Bien, avant qu'on commence, je voudrais quand même vous dire de quoi il s'agit, voilà. Et surtout, de point de vue pratique, vous demandez de bien vouloir noter les salles, dès maintenant, les salles des ateliers. S'agissant de l'atelier qui va traiter des questions des libertés publiques, il s'agit de la salle Amilcar. Toutes les salles se trouvent dans le couloir en face de cette grande salle. Donc salle Amilcar pour les libertés publiques. La grande salle, celle-ci, ça s'appelle la grande salle, elle sera donc destinée au thème justice. La salle Marhaba 1, en face, sera la salle où sera traité donc la question de la culture. Et puis la salle Marhaba 2, toujours en face, c'est dans cette salle où sera traitée la question des élections. Donc, liberté publique, salle Amilcar, justice, la grande salle, culture, salle Marhaba, et élections, salle Marhaba 2. Alors, de 16h, on va commencer, on va essayer de commencer à l'heure. Donc 16h30, 18h, ce sont les ateliers. Blogueur, c'est un atelier qui a déjà commencé à se réunir tout à l'heure. On a omis de vous le dire, probablement, on ne l'a pas dit. Donc il y a déjà les blogueurs en réunion, ils se sont réunis et ils vont désigner un rapporteur. Il y a déjà une réunion en cours, ils vont désigner un rapporteur qui va nous rapporter demain. Donc, les travaux de cette réunion. Mais, salle, alors, au fond, en face, la dernière salle à droite. Bien. Alors, cette deuxième partie concerne donc les ateliers et a pour objectif, en réalité, de dresser ou de tenter de dresser, parce que ce n'est pas évident, un état des lieux des acteurs de la société civile dans les séries de domaines que nous avons donc listés dans le programme. À savoir, donc, je peux les rappeler, dans le domaine des libertés publiques, dans le domaine des élections, dans le domaine de la justice, de la culture, des droits économiques et sociaux, des droits des femmes, des migrations et d'éducation et des blogueurs. Les quatre derniers domaines, droits économiques et sociaux, droits des femmes, migration et éducation, donc ces ateliers-là auront lieu demain à l'hôtel Al-Mashtal. et non plus ici. Donc demain, on déménage, on va passer la journée de l'autre côté du Belvédère, donc à l'hôtel El Mashtel. Donc il s'agit, donc, comme je dis, donc, de dresser ou de tenter de dresser un état de lieu des acteurs, la société civile, et surtout aussi d'essayer de dégager, non seulement de faire un diagnostic sur cet état-là, éventuellement les forces, les faiblesses, s'agit-il des structures qui existent déjà ou des nouvelles structures, leurs besoins, leurs profils, leurs demandes, leur attente, leur expression aussi, non seulement de faire un diagnostic, tenter de faire un diagnostic, mais aussi surtout d'essayer par la suite de dégager quelques priorités dans chaque domaine pour pouvoir ensuite avoir à partager une idée commune ou en tout cas une idée qu'on souhaite être convergente dans les différents secteurs d'activité de la société civile. Et si on réussit d'ici demain, dimanche donc après-midi, à dessiner le contour d'une feuille de route, où on a les priorités, les diagnostics dans chaque domaine et les priorités dans chaque domaine, on aurait en quelque sorte partagé ensemble une vue, une photographie de l'état des acteurs, pas de tous les acteurs, évidemment, nous n'avons pas la prétention de dire que tous les acteurs sont là, mais en tout cas, ce n'est qu'un début, donc c'est ça la démarche. On aurait une photo, certes incomplète, mais une photo quand même qui nous permet de jauger nous-mêmes un peu l'état des acteurs et de pouvoir dire, bon, nous pouvons travailler dans tel ou tel domaine, dans tel domaine, nous avons identifié tel ou tel besoin, etc. Ça nous permet donc, par la suite, à nous organiser individuellement, nous organiser collectivement, libre à ce moment-là, aux uns et les autres, de se mouvoir comme ils l'entendent. Évidemment, c'est un début, c'est une démarche qui est évidemment critiquable, mais c'est ce que nous proposons de faire. Alors, le format que nous avons pensé dans cette approche, dans cette démarche, c'est que à la fois d'associer les acteurs tunisiens, mais aussi le plus possible les acteurs non tunisiens. C'est la raison pour laquelle vous avez donc dans chaque atelier des acteurs tunisiens, mais vous avez aussi des acteurs non tunisiens. Et nous nous sommes organisés de telle sorte que dans chaque atelier, il y a une présidence, bien sûr, et un rapporteur, et le rôle de la rapporteure, on ne peut pas dire rapporteuse, non,
non. Bon.
Rapporteureux, déjà, je suis d'accord, bon, rapporteureux, donc, est très important. Je reviendrai après pour vous proposer un peu un schéma, un plan de rapport pour qu'on puisse donc ensuite pouvoir faire une synthèse ou une tentative de synthèse de tous ces rapports. Je dis l'importance des rapporteurs. Nous avons essayé, nous nous sommes rencontrés avec un certain nombre de rapporteurs et rapporteureux, mais nous n'avons pas pu tous les rencontrer, mais nous allons faire combler ce manque. Donc dans chaque atelier, nous avons une présidence et un rapporteur, mais nous avons une personne qui va présenter la question de son point de vue, liberté publique, nous avons par exemple M. Najil Brouri, et après la présentation, nous allons avoir deux discutants, un tunisien et un non-tunisien, pour apporter un peu, critiquer éventuellement, proposer ou apporter une autre démarche. Et puis par la suite, il y aura la discussion évidemment des différents membres des ateliers, qui rajouteront, qui modifieront, qui proposeront, etc. Voilà un peu l'esprit dans lequel les ateliers ont été organisés. C'est une heure et demie. J'insiste beaucoup pour que la maîtrise de temps soit quand même importante, hein, parce qu'on ne peut pas tout dire en une heure et demie, bien évidemment, mais le souci est quand même de dégager les éléments les plus caractéristiques de la question et du sujet et du champ qui est traité dans chaque atelier. Alors, donc ça, c'est de point de vue à la fois format et méthodologie. Mais vous avez chacun de rapporteur et chacun de président à sa disposition un petit papier, mais c'est une tentative, c'est une proposition de méthodologie, bien entendu. Il ne s'agit pas de vous imposer une forme de raisonnement particulière, mais il est ce qui est important à nos yeux, c'est que chaque rapporteur de chaque atelier doit présenter en plénière les propositions issues des débats et notamment quels sont les besoins de la société civile tunisienne à court et à moyen terme dans chaque domaine ? Est-ce qu'on peut les distinguer ? Est-ce qu'on peut les... quels sont les axes d'intervention prioritaires recommandés aux organisations, aux partenaires non tunisiens, notamment les organisations non gouvernementales internationales? Quelles sont éventuellement les recommandations que nous avons à vouloir formuler auprès de l'Union européenne, auprès des bailleurs de fonds, auprès des autorités tunisiennes en matière de soutien de la société civile tunisienne? Voilà les quatre questions. Si on arrive à les cerner, à les formuler, à les formaliser, on aurait déjà fait une avancée significative. Je sais que ce n'est pas évident, étant donné que la nouveauté, j'allais dire, de la question, de l'apprentissage collectif de ces questions-là, mais je pense qu'on y arrivera. Et vous avez aussi une espèce de plan, fiche synthétique de l'intention de chaque rapporteur, dans lequel donc on a un certain nombre de renseignements à faire et à donner, pour pouvoir ensuite, l'objectif d'abord, demain la science de restitution est une science très importante, donc tous les rapporteurs vont restituer, et il va y avoir un débat avec la salle, et pour pouvoir aussi nous donner des éléments à la fois quantitatifs et qualitatifs pour faire le bilan ensuite et l'évaluation de notre travail demain et après. Voilà donc les objectifs, le format et la méthodologie de ce que nous souhaitons faire cet après-midi. Au préalable, donc, pour introduire, j'allais dire, ces travaux des ateliers, en ayant à l'esprit que nous avons déjà eu un séminaire pendant 2 jours sur des questions clés de la transition démocratique, la construction démocratique, les fondements d'une construction démocratique, quelles sont les conditions pour la réussite d'une transition démocratique, en ayant à l'esprit ces séminaires-là, il s'agit bel et bien, qui nous a éclairé ce séminaire-là, de pouvoir passer à une approche plus stratégique, plus opérationnelle, je dirais. Comment on traduit ces grands principes en des priorités par rapport au concrètement à ce que nous devons faire, nous, comme organisation non gouvernementale, comme société civile. Voilà l'esprit dans lequel je m'arrête là. Donc, pour avancer dans cette démarche, on va faire la transition entre les deux, entre le séminaire d'aujourd'hui, d'hier et d'avant-hier, et les travaux de cet après-midi. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé d'abord donner un éclairage régional. La Tunisie ne vit pas seule, elle est dans une région, et surtout elle est dans une région arabe qui est en mouvement, comme vous le savez. Ensuite, on donnera aussi une intervention sur comment, ou à nos yeux, pourquoi la société civile a un rôle décisif, et le terme décisif, on essaiera de l'enrichir, de le traiter d'une manière dynamique. Et puis enfin, il y aura donc la parole à Abd Marsoud, qui de ce point de vue, en tant que président de la plateforme Euromed des ONG, des organisations non gouvernementales, exprimera donc l'opinion, j'allais dire, d'une société civile euro-méditerranéenne qui était active avant le 14 janvier, et j'espère qu'elle le restera après le 14 janvier. Maintenant, la parole. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas d'observations, je donne la parole à notre ami Issam Mohamed Hassan, qui est de l'Institut du Caire pour les études des droits de l'homme, institut qui a des contributions très importantes depuis des années, et notamment un rapport annuel sur l'état des droits de l'homme dans la région arabe. À toi la parole. 10 minutes, Mohamed Hassan. Je crois qu'il y a la traduction de l'arabe au français, donc c'est bon. Donc vous devez donc aller chercher vos écouteurs pour celles et ceux qui souhaitent donc avoir la traduction aussi bien ici que pour les ateliers.
شكرا سيدي الرئيس. بداية يعني عايز أقول إن يعني ما يحدث في تونس وفي مصر وفي المنطقة العربية يؤشر ليس فقط لسقوط عدد من الرموز الاستبداد أو بعض نظم الاستبداد أو جذور بعضا من جذور ومرتكزات الاستبداد في هذه المنطقة في مصر وتونس، ولكن من الواضح إن إحنا إذا تطور نوعي في هذه المنطقة بتسقط بموجبه أفكار ونظريات عديدة. ربما أول هذه الأفكار التي أسقطتها الثورة في تونس ومصر هو ما يتعلق بأن العالم العربي منطقة فريدة في هذا العالم وتشكل استثناء يستعصي على التغيير الديمقراطي. هذه العبارة يعني ترددت كثيرا، وكنا إحنا نفسنا يعني نكاد نكون مقتنعين بالفعل بأن هذه المنطقة أصبحت عصية على موجات التغيير الديمقراطي عبر عدة عقود. في الحقيقة الثورة التونسية ومن بعدها الثورة المصرية فتحت الباب لأفاق تغيير أو إصلاح ثوري تصنعه الجماهير بنفسها، بتأخذ زمام المبادرة في البحرين الآن، في ليبيا، في اليمن، في الجزائر، حتى في سوريا التي لا تعرف أدنى أشكال الحراك السياسي، بدأت أيضا فيها محاولات لانتزاع زمام المبادرة من جانب الجمهور. أعتقد أيضا إن ما يحدث في هذه المنطقة في الآونة الأخيرة هو وثيق الصلة بحالة بيعيشها العالم العربي لسنوات طويلة، وربما انطلاقا من تقريرنا السنوي الأخير نستطيع أن نؤكد إن التطورات اللي بتحدث في المنطقة كانت بتؤكد من الناحية الفعلية انعدام أي إرادة سياسية للتغيير من داخل هذه النظم ذاتها، وأيضا بتؤكد إن يعني الدول الفاعلة في المجتمع الدولي أو الأطراف الدولية التي تتحدث عن الديمقراطية وترعى الديمقراطية كانت بشكل أو بآخر داعمة لهذه النظم الاستبدادية تحت دعاوي مختلفة. ونستطيع أن نرصد أمثلة عديدة، يكفي أن اليمن الذي يعني بيخوض معارك شبه يومية تجاه شعبه منذ سنوات ليست بالقليلة بيتلقى التهنئة من الرئيس أوباما على عمليات قام فيها بقتل المدنيين بدعوة مكافحة الإرهاب. هذا مثال. أيضا لدينا النظام السوداني المتهم بارتكاب جرائم حرب مهولة وجرائم ضد الإنسانية، وأضيف إليها جريمة الإبادة الجماعية، ما يزال رئيسه ينعم بالحرية وينتقل من مكان لآخر، بل ويجري انتخابات لا يجد فيها المجتمع الدولي أي مشاكل، ويعتبر التزوير الذي جرى فيها والانتهاكات التي شهدتها نوعا من المشاكل اللوجستية التي لا تؤثر في مجريات هذه الانتخابات. نفس الشيء ممكن يتقال على تونس، ممكن يتقال على مصر. إلى أي مدى كانت هذه الدول الغربية متواطئة وداعمة بالفعل لنظم الاستبداد؟ كذلك أحد المقولات التي تسقطها هذه الثورة هو أيضا ما تعتمد عليه نظم الغرب في إدارة علاقتها بالمنطقة العربية، واللي بتشوف أن الحفاظ على استقرار هذه النظم هو يعني معيار تأمين مصالحها في المنطقة العربية، وبالتالي لم يكن لديها غضاضة في تأمين بقاء هذه النظم باعتبار أنه بيأمن هذه المصالح من الناحية الفعلية. الثورة التونسية أسقطت هذه المقولة. أيضا أحد المقولات أيضا اللي شاعت أو شكلت مصدرا دائما للإبقاء على الوضع المتردي للحريات في العالم العربي والإبقاء على انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي هو ما يتعلق بالخصوصية الثقافية. وأظن أن الشعوب اللي خرجت بالملايين في مناطق مختلفة في المنطقة العربية مش بس في مصر وتونس، بتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قضية الخصوصية ليست هي المحك أو الزريعة التي يمكن الاستناد إليها لتبرير التلكؤ في تنفيذ الالتزامات الدولية فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان. عايز أقول إن ما نقدرش نفصل بين ما حدث في مصر وتونس وعدد من الدول العربية وبين ما شهدته المنطقة بشكل خاص في العام الأخير. في مصر كانت استبقت الانتخابات البرلمانية بشكل خاص بأكبر حملة قمع تجاه وسائط الإعلام وتجاه المدونين وتجاه حرية التعبير، ووصل الأمر حتى لأن على يعني منصة البرلمان تنطلق الدعوات لإطلاق النار على المتظاهرين اللي بيرفضوا السيناريو التوريث أو بيرفضوا المنطق اللي بيتم بيه إدارة الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية. هذه الانتخابات كانت هي الأسوأ في تاريخ مصر، مش بس من زاوية حجم التزوير اللي تم فيها، ولكن حجم الاستخفاف بأحكام القضاء اللي وصل إلى حد إن فيه ما يقرب من 1500 حكم ببطلان الانتخابات لم يتم تنفيذها، ومن بينهم 200 حكم صدروا بشكل نهائي من المحكمة الإدارية العليا. نفس الشيء فيما يتعلق بالبحرين، ما نقدرش نغفل ما يحدث في البحرين عن حملة القمع اللي سبقت أيضا الانتخابات البرلمانية واللي تم فيها اعتقال أعداد واسعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، وبالذات من الطائفة الشيعية اللي بتمثل أغلبية السكان واللي مستهدف إقصائها وتهميش وجودها داخل البرلمان البحريني بشكل منهجي، حتى لو وصل الأمر إلى جلب جنسيات أخرى وتجنسها بالجنسية البحرينية. ما نقدرش نفصل اللي بيحصل في البحرين النهاردة عن التطور اللي حصل في الانتخابات. ما نقدرش نفصل اللي بيحصل في السودان النهاردة. السودان بيتطير فيه معالم الجغرافيا وبيتجه إلى أنه يصبح دولتين من الناحية الفعلية بعد أن استخدم أبناء الجنوب حقهم في خيار الانفصال عن الدولة بعدما أصبحت الوحدة غير جاذبة للمجتمع الجنوب بالمرة، وبعدما برهنت ممارسات البشير على مدى سنوات عن أنه هذا النظام لا يمكن أن يكون قادرا على استيعاب مختلف أشكال التنوع العرقي أو السياسي أو الديني إلى آخره. هذه النظم أيضا لما نيجي نشوف على مدى العام أو أكثر لم تقدم خطوة واحدة إيجابية في اتجاه تعديل البنية التشريعية، بل على العكس صارت في الاتجاه الأسوأ. وربما لدينا في تونس أهم تطور قانوني في تونس عمله بن علي كان تعديل قانون العقوبات لمعاقبة المنظمات الغير حكومية اللي بتتهم بتقليب المؤسسات الأوروبية على النظام التونسي والإضرار بالمصالح التونسية. في مصر أيضا كانت تجري العدة لإعداد عدد من القوانين باسم مكافحة الإرهاب أو قوانين الجمعيات أو مزيد من القيود على حرية الإعلام. نفس الشيء هنلاقيه في البحرين، هنلاقيه في الجزائر، هنلاقي مفيش فعلا تطور ذو شأن حصل من الناحية القانونية. ربما كان التطور الوحيد اللي ممكن يتقال عليه أنه إيجابي بشكل ما حصل للأسف في العراق مش في أي دولة عربية أخرى، وهو المتعلق بإقرار قانون يقترب أو يتماشى بدرجة أو بأخرى مع المعايير الدولية لحق تكوين الجمعيات. بس أثناء ذلك لا يوجد قانون واحد مشي في سكة احترام حقوق الإنسان. عايز أقول إن إن في الحقيقة ما يحدث في هذه المنطقة ينبغي أن نتوقف فيه عند جيل كامل من جيل عريض من المدافعين عن حقوق الإنسان في هذه المنطقة اللي يعني قدروا يحفروا في الصخر لسنوات طويلة وتحملوا قدر كبير من المهانات والقمع والإساءة السمعة والتشهير، وربما عدد غير قليل منهم موجود النهاردة في القاعة، علشان تيجي أجيال تقدر تستخدم أو تعمل بالفعل حقها في استخدام قيم ومعايير حقوق الإنسان. فأنا أتصور أن في تحية واجبة لكل المناضلين من الجيل الأول لحقوق الإنسان اللي اشتغل في ظروف بالغة الصعوبة وتحمل يعني قدر كبير من المصاعب. ربما لو بصينا حتى على الخريطة في خلال العام الأخير هنلاقي المنظمات التونسية خارج نطاق العمل تقريبا من الناحية القانونية، تحت الحصار بشكل دائم، النشطاء تحت الإقامة الجبرية والرقابة اللصيقة بشكل دائم. إذا انتقلنا إلى البحرين، اعتقالات واسعة استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان. إذا انتقلنا إلى سوريا، ما زال عدد غير قليل من المدافعين عن حقوق الإنسان داخل السجون ويقضون فترات عقوبات مغلظة ل3 سنوات أو أكثر. أيضا بالنسبة لليمن كان هناك العديد من اللي قدموا إلى محاكمات جائرة بسبب نشاطهم في حقوق الإنسان، والعديد منهم تعرض إلى الاختفاء القسري وإلى التعذيب اللي وصل حتى يعني ما حد تمثيل تنفيذ عقوبات إعدام وهمية بحقهم لأكثر من مرة. فالصورة بالفعل كانت مزرية للغاية. الوقت طبعا لا يتسع، لكن انا يعني حابب ان انا يعني اسير بعض الافكار فيما يتعلق ب يعني الاحتياج لعمل مشترك على النسق الاقليمي يمليه التحدي اللي بيتواجهه النهارده التطلعات نحو الانتقال الديمقراطي. انا تقديري يعني ومن واقع حتى المناقشات اللي الواحد سمعها في خلال اليومين هنا في تونس، ان بالفعل ان احنا تقريبا ازاء مشاكل واحده، فكره اللي هو يعني عمليه انتقال بتتم عبر الاطاحه لا تتم بالضربه القاضيه، ما فيش ثوره او حركه نجحت في انها تجهز بالكامل على مرتكزات النظام. هناك دائما المخاوف من الالتفاف على المطالب، هناك ايضا اشكاليات الوصول الى الحقيقه وتشكيل لجان الحقيقه والعداله الانتقاليه، هناك ايضا فكره يعني اوكي اتصور ان احنا يعني على قد ما الواحد كان متصور ان احنا قطعنا جهد ممكن البناء عليه فيما يتعلق حتى بالدساتير وفيما يتعلق بالبنية القانونية الديمقراطية، بالتأكيد احنا قطعنا شوط، لكن في فرق كبير قوي واحنا بنعمل مشروع قانون واحنا عارفين انه هيترمي في صندوق القمامة، وبين ان هذا المشروع قابل لانه يبقى حقيقة. في فرق بين ان احنا بنعمل مشروع لدستور او مشروع لقانون واحنا عارفين ان توازنات القوة مش في صالحنا في اللحظة دي، فمن جوانا ما احناش متحررين واحنا بنعمل هذا المشروع. مؤكد النهاردة لما نيجي نعيد النظر في المشاريع اللي احنا عملناها قبل كده او في التصورات بالنسبه لنظام دستوري مختلف، مؤكد واحنا احرار هنشوفها بشكل مختلف عن واحنا كنا متكتفين باكتر من شيء وخيالنا نفسه مش حر في ان احنا نقرر ما يناسبنا بالضبط ايه. فأتصور إن إحنا يعني في احتياج على المستوى العربي والإقليمي في ضوء التطورات اللي حاصلة لمزيد من التشبيك، تبادل الخبرات وتبادل المعلومات على مستوى المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني. ربما فكرة يعني الملتقى المطروحة بالنسبة لتونس ربما يكون محتاجين نسق من هذه المنابر على المستوى العربي لتدارس بالفعل المشكلات الحقيقية والعملية فيما يتعلق ب الانتقال الديمقراطي في المرحلة القادمة. أتصور كمان إن ربما يكون في حاجة لتقييم أداء هذه الحكومات المؤقتة أو الحكومات اللي بتنبثق عن مرحلة الانتقال الديمقراطي، علينا إن احنا نحط في اعتبارنا أيضا فكرة تقييم أدائها على المستوى الدبلوماسي في المحافل الدولية فيما يتعلق بمواقفها تجاه حقوق الإنسان. يعني ربما مثلا مركز القاهرة في بيتبنى مشروع فيما يتعلق بتقييم أداء الحكومات داخل مجلس حقوق الإنسان، بالتأكيد أن أداء هذه الحكومات من أسوأ ما يكون. طب يعني إذا فعلا أن احنا عندنا 3 أو 4 حكومات ممكن تبقى حكومات ديمقراطية أو حكومات على طريق الإصلاح وفيها توازنات تسمح بعمل مختلف، أتصور أن في احتياج لأن احنا نقيم هل في تغير بيحصل في أداء هذه الحكومات داخل منابر الأمم المتحدة داخل أروقة الجامعة العربية. ربما أيضا يكون في احتياج يعني على المدى المتوسط إذا اندفعت بالفعل عجلة التغيير في المنطقة، لأن احنا نعيد النظر في رؤيتنا لدور الجامعة العربية فيما يتعلق بآليات الحماية الإقليمية. أتصور إن إذا كان في 3 أو 4 دول ممكن فعلا تدعم فكرة إن يبقى في احترام لحقوق الإنسان على مستوى جامعة الدول العربية، فربما نقدر ندفع في هذا الاتجاه في مرحلة مقبلة، ليس بالضرورة في العام الحالي أو في العام القادم، ولكن علينا أن نحط على الأجندة فكرة تطوير آليات الحماية على المستوى الإقليمي. وأكتفي بهذا القدر.
شكراً عصام. لما لا مؤتمر إقليمي أو بادرة إقليمية عربية يعني تدرس وتتدارس يعني فيها كل نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات العربية قضايا مشتركة تتعلق بحقوق الإنسان. هذه من جملة الأفكار التي يمكن أن نأخذها وأن ندفع بها إلى الأمام. الكلمة الآن إلى إيديت جندوبي.
مرسي. J'espère que dans mon propos, je ne vais pas vous donner l'impression de sauter un peu du coq à l'âne avec mon prédécesseur. On est bien sûr toujours dans la problématique des sociétés civiles. Au risque de vous paraître peut-être un peu présomptueuse, d'ailleurs je me suis fait piéger, c'est le cas de le dire, puisque j'avais mis dans le titre de cette intervention le fait de parler de la société civile, facteur décisif de la démocratisation. Et puis, je dois vous avouer que depuis hier matin, pourtant je connais parfaitement, je pense, en tout cas assez bien la Tunisie, je suis tellement à la fois émue et tellement impressionnée par le dynamisme de cette société civile que je me dis que vraiment mon propos n'aurait pas lieu d'être que de s'étendre sur la nécessité d'avoir une société civile dynamique dans ce pays. Ceci étant, si j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir prendre un petit peu la parole, c'est parce que j'ai voulu un petit peu réfléchir aussi sur ce parallèle à faire avec justement les pays de l'Est, parallèle qui a été un peu ébauché hier. Et puis parce que aussi j'ai été à la fois un peu mécontente d'un petit article que j'ai eu envie de commettre dans la presse et où on m'a enlevé le titre. Le titre de cet article, c'était « Comparaison n'est pas raison ». C'est-à-dire que je crois qu'on peut apprendre beaucoup des expériences des autres pays, mais justement parce qu'elles diffèrent de ce qu'on est en train de vivre soi, de ce qu'on est en train de vivre ici. Et puis, comparaison n'est pas raison est passée à la trappe. Beaucoup de gens savent comment les titrages de journaux se font, au caractère près. Et puis, c'est devenu des sociétés arabes plus ouvertes. Plus ouvertes par rapport à quoi ? Par rapport à celles des pays d'Europe centrale, orientale, sur lesquelles, bon, par ailleurs, c'est peut-être ça la seule légitimité que j'ai de parler à cette tribune. C'est parce que j'ai travaillé dessus pendant un certain nombre d'années. Pourquoi ? Parce que ces sociétés d'Europe centrale, orientale, ont été beaucoup plus étouffées. Non, je ne crois pas. Je crois que les sociétés arabes l'ont été tout autant et le demeurent aussi dans certains pays. Mais peut-être qu'elles ont été plus aliénées, disons. Elles n'ont pas bénéficié quand même, malgré tout, malgré la répression, d'une certaine ouverture. Et c'est ce qui fait que les sociétés civiles des pays d'Europe centrale orientale sont des sociétés totalement atomisées et qu'elles ont connu, quand elles ont basculé à la suite de la chute du mur de Berlin, dans une démocratisation qui a été extrêmement chaotique. Et sans vouloir préjuger de l'avenir, je pense qu'ici, notamment en Tunisie, on a un certain nombre de garde-fous pour que, justement, cette démocratisation ne soit pas aussi chaotique. Je ne vais pas vous infliger de développement sémantique sur le concept de société civile. Ce serait là aussi vous faire injure. On a souvent parlé de l'introuvable société civile dans les pays d'Europe de l'Est en 1989. Et ici, je me vois être confrontée à un vivier, à un potentiel de citoyenneté, de volonté de prendre son sort en main, qui fait que toutes les questions théoriques sur les sociétés civiles, on va les réserver à des colloques purement universitaires, puisqu'il s'agit ici d'être opérationnel. Ceci étant, je me permettrai quand même de vous faire très rapidement un parallèle entre la Pologne et la Roumanie, et pour vous montrer justement que la différence sur la vitesse de la démocratisation, sur son ancrage dans la population, sur son ancrage dans les mécanismes économiques et sociaux, qu'est-ce qui a fait la différence entre la Pologne, qui en 2 ans a véritablement réussi à rendre sa transition démocratique irréversible, et la Roumanie, qui a passé plus de 10 ans, c'est justement la force de cette société civile. Et ce que le président hier du Parlement européen, M. Buzek, n'a sans doute pas eu le temps de vous dire, c'est qu'il ne fallait pas parler de l'état de la société civile en 1990 pour la Pologne. Il fallait parler de l'état de la société civile en 1980 en Pologne. Et qu'il y a eu des ressorts qui ont vraiment travaillé le fond de la société polonaise pour que justement en 1990, il y ait un syndicat, Solidarność, qui soit capable de réaliser une alternative démocratique. Après, ça c'est une autre histoire, mais qui ressemble peut-être à certains égards, ou qui ressemblera peut-être à certains égards à celle de la Tunisie, c'est quand un syndicat se transforme en parti politique, il déserte pour partie la société civile, mais cette société civile a tellement été travaillée, ceci étant, par un certain nombre de mécanismes pendant ces décennies qui a précédé la chute du mur, que justement, ces mécanismes ont permis à la Pologne de se prendre en main dans le sort qui a été le sien. La chose a été totalement différente pour la Roumanie, justement, parce qu'il y avait eu un tel étouffement de cette société civile qu'on est arrivé en 1990 dans un pays, et j'y reviendrai tout à l'heure rapidement, où on a créé une sorte de société civile clé en main, avec beaucoup de subventions de l'Union européenne, et que ça a donné un certain nombre d'effets pervers, que j'espère ici, on pourra s'épargner, parce qu'ils font perdre beaucoup de temps et ils créent beaucoup de malentendus. Je m'attarderai très rapidement sur le terme de décisif, plutôt, et non pas sur le terme de société civile. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut se dire que c'est un facteur décisif, que cette société civile et son dynamisme ? C'est parce que c'est elle qui va véritablement ancrer l'irréversibilité du phénomène. Il ne faut pas, même si on pose des actes politiques, même si on pose des actes juridiques, et je pense que c'est évidemment essentiel, on a parlé de la justice transitionnelle, c'est capital. Mais de toute façon, quelle que soit la façon dont ces actes politiques, ces actes juridiques vont être posés, s'ils ne sont pas soutenus, surveillés par une société civile active, ces actes politiques et juridiques posés, je ne dis pas qu'ils ne serviront à rien, mais ils pourront très vite être vidés de leur contenu ou, au mieux, instrumentalisés. Donc, c'est là où la société civile a un rôle de vigie à accomplir. Et si cette pression citoyenne ne s'exerce pas, On pourra faire tous poser tous les actes qu'on voudra. Je pense que là, il peut y avoir un revers de bâton. Elle est aussi décisive, cette société civile, parce qu'elle est un facteur de légitimité essentiel pour le politique. Le politique ne peut pas faire sans cette société civile aujourd'hui. Là aussi, il y a eu un pas et on ne peut pas revenir en arrière. Parce que cette société civile, si elle est mobilisée, elle va assumer son devoir de démocratie élective. C'est-à-dire qu'elle ira voter. C'est-à-dire qu'on ne va pas rencontrer, comme dans des pays de l'Est, au bout de 3 ou 4 ans, des taux d'abstention qui sont totalement inquiétants et qui ont du coup totalement, si vous voulez, perverti justement cette démocratisation qu'on a espéré pouvoir s'accomplir dans ces pays. Et puis aussi, si cette société civile se mobilise, elle va remplir aussi sa tâche au niveau de la démocratie participative. Il n'y a pas de démocratie élective sans démocratie participative, et l'inverse n'est pas vrai non plus. Donc cette démocratie participative, c'est aussi un facteur qui peut rendre décisif la démocratisation. La troisième raison de vouloir utiliser cet adjectif assez tranchant, assez radical, de décisif, c'est parce que la société civile va permettre la réappropriation du politique. Et là, je ne fais que reprendre et je me tourne vers mon amie Ghislaine Glaçon-Deschaumes qui est dans la salle. Elle a commis un texte qui s'appelle « Le retour du politique dans les pays arabes ». Eh bien, c'est bien de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas attendre simplement des partis politiques qu'ils présentent, des programmes politiques. Espérons qu'ils le fassent et ils le feront. Ils sont en devoir et en demeure de le faire. Mais faire de la politique, reprendre son sort en main, forger son opinion, donner, comme a dit hier matin très justement M. Mesrani, de la substance à la démocratie, ça c'est la société civile qui le fait. La substance à la démocratie, ça ne sera pas simplement le pluralisme politique et d'aller mettre son bulletin dans l'urne. Donc, cette réappropriation du politique est fondamentale, et c'est ne pas faire de la politique. J'ai souvent entendu parler comme ça dans les pays, « Ah, moi je ne fais pas de la politique, ah, moi je ne fais pas de politique ». On ne parle pas de faire de la politique. On parle de redevenir un citoyen capable de juger et de ce qu'il veut que son pays, dans quelle direction il se dirige, et de ce qu'il veut faire aussi, lui, de son sort en tant que citoyen. Quatrièmement, je pense que c'est un facteur décisif, parce que cette société civile, si elle parvient à bien s'irriguer dans l'ensemble du pays, dans l'ensemble toutes des couches sociales de la Tunisie, elle va permettre à la société à se réconcilier avec elle-même. Je pense que, bien sûr, aujourd'hui, on veut et on a raison de vouloir les désigner, de rechercher, de traiter en justice les coupables. Mais il y a quand même une société qui a été rendue au tréfonds d'elle-même par la petite et la moyenne corruption. Elle a été rendue en partie malade d'un certain nombre de choses. Si on est descendu dans la rue pour retrouver sa dignité, c'est qu'on s'est senti humilié. On ne s'est pas simplement senti humilié par rapport à ses dirigeants, et j'espère que vous ne le prenez pas mal, mais on s'est aussi senti humilié en soi, parce qu'on avait perdu aussi cette dignité au plus profond de soi. Et donc, avoir des associations, s'investir dans le tissu associatif, c'est à la fois réconcilier cette société avec elle-même, et c'est réconcilier aussi le pays avec lui-même, aussi bien avec ses régions ou avec ses disparités économiques et sociales qui sont énormes. On a parlé tout à l'heure, à la fin du séminaire, la phrase a été dite, de refaire un tissu social. Et je redis la phrase parce que je pense qu'elle est importante. Un tissu social fait de dialogue, de fermeté sur les principes, mais aussi d'ouverture. Alors, je ne parlerai que de 2 chantiers, par exemple, où vont s'investir ces énergies citoyennes qui me paraissent à la fois énormes et eux aussi décisifs. Prenons par exemple le développement local. Le développement local, avec des multitudes de petits projets, de porteurs de projets qui vont s'identifier. C'est fondamental que ça commence maintenant. Est-ce qu'il va falloir attendre les élections locales en Tunisie? Est-ce qu'il va falloir attendre le renversement des rapports de force au niveau local, avec toutes ces baronnies, ces ancrages aussi de petits potentats locaux, de petites corruptions qu'on connaît? Non, on ne va pas attendre cela. Il faut absolument que, justement, la société au niveau local prenne son sort à main sur des projets très précis et sans doute des projets de développement économique. Et puis aussi, peut-être un deuxième chantier qui peut être très important, ça a été légèrement ébauché, on l'a senti dans l'air dans l'atelier sur les droits économiques et sociaux, changer peut-être de modèle de croissance, la question se pose. On parle de l'économie sociale, on parle du tiers secteur, y compris dans nos sociétés bien malmenées, bien en crise. Parlons aussi de cette économie sociale en Tunisie, parlons du tiers secteur. Voyons aussi, même dans des conditions qui ne sont pas idéales, comment au Maroc elle a permis de mettre sur pied un tissu associatif extrêmement dynamique. Donc voilà déjà peut-être deux chantiers, il y en a bien plus. Mais où ça peut justement à chaque fois faire basculer de façon décisive les choses, les rapports de force au niveau local et le développement économique au niveau local. Alors, ce matin, on a aussi parlé de l'Union européenne. Le représentant de la délégation de l'Union européenne était extrêmement partant, comme vous l'avez vu, pour accompagner. On va accompagner. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord qu'on va accompagner. Mais j'aimerais quand même faire, par la petite expérience que j'ai enregistrée dans les pays d'Europe centrale, avec 15 ans de mener à bien des projets européens, faire un peu de prévention. Faire un peu de prévention et dire aux grosses ONG européennes qui vont débarquer en Tunisie, avec les meilleures intentions du monde, avec les plus grands, avec de gros moyens financiers, leur dire que, justement, la société tunisienne, elle a pas besoin d'associations en kit, en clé en main, si vous voulez, du kit associatif. La société tunisienne, elle a construit, elle l'a montré, elle va continuer de construire son tissu associatif, et que ces grosses ONG qui vont arriver avec leur savoir-faire, avec leurs expertises, justement, qu'elles fassent de l'accompagnement, mais qu'elles ne fassent pas de la substitution. Alors, pourquoi cette prévention? Parce que aussi, on a besoin de ces locomotives, que sont ces gros poids lourds du développement local, de ces poids lourds de la démocratie locale, etc. Et parce que le plus souvent, il faut veiller à cela. Elles peuvent se substituer comme interlocutrices au pouvoir public. Elles seront les interlocutrices des pouvoirs publics. Le pouvoir public adore avoir une, deux, trois, quatre associations. Non, il faut une plateforme d'associations, petites, moyennes et grandes, à mettre en face des pouvoirs publics. Je dis pouvoir public, ça paraît un mot très, très éthéré, si vous voulez. Mais bon, quel que soit ces pouvoirs publics, quel que soit ce que les élections donneraient, il faut véritablement une plateforme pour l'ensemble de ces associations où elles puissent véritablement avoir des cahiers de revendications sur des choses transversales qu'elles vont partager et qui vont permettre aussi pour elles de mieux s'ancrer dans la réalité. Et puis, un troisième élément de la prévention, c'est la capacité d'absorption. Vous savez, on a beaucoup parlé de la capacité d'absorption, on a dit que dans les pays de l'Est, il n'y avait pas assez de porteurs de projets, qu'il n'y avait pas assez de projets, qu'ils étaient incapables d'absorber l'argent. Alors, je pense qu'ici, les besoins ne sont peut-être pas aussi démesurés qu'on veut peut-être le croire, que ne l'étaient peut-être les pays post-communistes, avec, on a parlé d'un plan Marshall. En tout cas, les besoins sont immenses. Mais peut-être qu'il faudra veiller à surtout faire du qualitatif, et pas forcément à vouloir faire tout de suite du quantitatif. Parce que le quantitatif, il a beaucoup d'effets pervers, souvent. Alors que le qualitatif, on peut dire, voilà, on a fait ce projet-là, ça a marché, il est reproductible, on peut le faire, et les échanges d'expérience, au moins, là, c'est pas du pipeau. Oui, Monsieur le Président, je vais me dépêcher. Je terminerai. J'ai voulu faire cette intervention pour mes camarades et j'en suis du Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie, le CRLDHT. On l'a déjà dit dans les ateliers et les associations à cette table, autres que le CRLDHT, vont bien sûr le redire. On a dit que les lignes bougent. Les lignes vont bouger pour tout le monde, y compris pour nos associations. Chaque association doit repenser sa stratégie, peut-être même revoir ses priorités et peut-être même instaurer une nouvelle organisation. En ce qui concerne le CRLDHT, dont je me permets d'être aujourd'hui la modeste porte-parole, parce que, vous le savez, c'est un petit noyau qui a fait beaucoup, qui a été créé en octobre 1996. Il a été, janvier 2011, merci, il a été quatre choses. Un relais d'information sur un pays où l'information ne partait pas, ne sortait pas, et où dans nos pays, en France, elle était totalement déformée ou inexistante. Le CRLDHT a été aussi un lobbying pour porter le plaidoyer des défenseurs des droits de l'homme et de l'opposition ici, que je ne qualifierais pas de dissidence, mais c'était par moments parfois de la dissidence, c'est-à-dire des voix parfois très isolées pour l'opposition. Donc il s'est chargé de faire ce plaidoyer. Il a été aussi un lieu de rassemblement et un espace d'expression pour les opposants. Et je pense qu'ils ne me démentiront pas, pour ceux qui sont dans cette salle ou à cette tribune, qu'il a souvent été la petite lanterne rouge qui leur a permis de pouvoir s'exprimer à l'extérieur. Et de ce point de vue-là, ce rôle de vigie, il faut toujours le garder. Et peut-être qu'il va encore garder tout son sens pour les mois et les années à venir. Alors aujourd'hui, bien sûr, il ne s'agit plus d'une mission de la Tunisie vers l'extérieur, d'être une structure qui permette aux Tunisiens les plus motivés, les plus courageux de s'exprimer. Il s'agit maintenant d'être de l'extérieur vers la Tunisie. Pourquoi l'extérieur vers la Tunisie ? Deux mots sur cet extérieur. On a peu parlé, mais je pense qu'on va bien sûr en reparler dans les ateliers, ça n'est nullement un regret, de la communauté tunisienne dans l'immigration. La communauté tunisienne, ce qu'on appelle dans une autre définition, la diaspora, la communauté tunisienne, elle n'a de cesse, et on l'a vu par rapport aux manifestations qu'il y a eu en France, à la suite des événements en Tunisie, elle n'a de cesse d'être elle aussi, de contribuer au développement de son pays. Et je pense qu'elle peut aussi être un levier de développement essentiel, en même temps qu'un facteur d'ouverture très important. Elle a un potentiel énorme, et n'oublions pas que quand elle rentre au pays, elle irrigue l'ensemble des régions. Donc de ce point de vue-là, l'immigration va tenir ses assises le 7 mai 2011, et s'il y a un appel à faire, c'est de vous appeler à dire à tous vos amis, à toute votre famille qui est là-bas, en France, que les assises de l'immigration vont se tenir et qu'elles vont essayer justement d'apporter leur contribution à la démocratisation en Tunisie. Et puis, deuxièmement, il y a aussi l'extérieur, c'est-à-dire les associations françaises, qui vont aussi maintenant se mettre à faire d'une poignée de militants qu'elles étaient sur les droits de l'homme, qui vont vouloir aussi participer à cette consolidation de la démocratie en Tunisie. Bien sûr, peut-être avec une certaine mauvaise conscience. Moi, je vois beaucoup de mes collègues français qui disent « Ah, mais on ne savait pas, mais on ne savait pas ». C'est que je ne leur avais peut-être pas encore assez parlé, mais quand même, je pense que là, il y a vraiment une volonté de la part des associations. Je parle des associations, hein, je ne parle pas des pouvoirs publics, là. Des associations locales en France à vouloir se tourner et justement à pouvoir lancer des passerelles, parce que ces passerelles, elles vont être essentielles pour mener le combat, notamment sur la mobilité des personnes. Parce que des Tunisiens qui se retrouvent en centre de rétention, avec toute l'actualité qu'il y a eu sur la Tunisie en France, croyez-moi que ça ne fait plus tout à fait la même impression pour les associations locales françaises qu'avant, où on voulait les faire passer pour de simples clandestins. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir été aussi longue, Monsieur le Président.
Merci Edith. La parole est à Abdel Marsoud, notre ami président de la plateforme Oromed des ONG.
Shukran Kamel. Shukran. Sayed Safir. Shukran Kamel. في الواقع انا سعيد بوجوده هنا لعده اعتبارات. اولا كوني تلقيت دعوه من اصدقاء في لافيدياش وفي الشبكه باش نشارككم هاد حق فرح ديال التفكير الجماعي في كيف يمكن المجتمع المدني يساهم في الانتقال الديمقراطي. وأسعد لأنني كنشوف واحد مجموعة ديال الصديقات والأصدقاء اللي ساهموا في تأسيس هذا المنبر موجودين، وأسعد أكثر لأنني في الحقيقة كنشوف كمال جندوبي موجود في تونس بفضل المواطنات والمواطنين ديال تونس اللي بالثورة ديالهم خلاوا الأصدقاء يعودوا على رأسهم الأخ كمال الجندوبي. فتحية محبة وتقدير لكمال، لأنه سنوات وحنا كنتلقاو مع بعضنا وكنفكروا متاش غنمشيو لتونس مجموعين ومتاش غنتلقاو في تونس. وكنظن التحولات السياسية اللي وقعت في المدة الأخيرة جعلتني نجي لتونس وبدعوة من كمال ومن سهير، فهذا شيء في الحقيقة بالنسبة لي كيسرني، لأنه في المنبر الأوروبي المتوسطي للمنظمات غير الحكومية اللي هو واحد شبكة كتجمع حوالي 80 منظمة وشبكة محلية جهوية وإقليمية ومحلية. وكنظن ما يمكنش، وهذا غنرجع ليه في النهاية بالنسبة للأصدقاء التونسيين، لما كان مؤتمر ديال الاتحاد من أجل المتوسط في 13 جويي 2008 كان طلب من المنبر الحضور لأول مرة في إطار هذه الدينامية الجديدة اللي كتعرفوها هي جزء من المسار ديال برشلونة واللي اليوم عليه أسئلة كبيرة، لا مسار برشلونة ولا الاتحاد من أجل المتوسط اللي خلق بدون أهداف محددة واللي مع ذلك حاول يهمش الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلم والمجتمع المدني. ولكن مازال كنذكر لما لبينا الدعوة وحظيت بشرف أنا والأخ كمال جندوبي باش نمشيو للمؤتمر القمة، لما دخلنا للقاعة الرسمية ديال الاجتماعات الرئيس التونسي السابق انسحب من القاعة ديال الاجتماعات يوم 13 جويلية وخلى أثار عند الآخرين. ولذلك الحكومة التونسية السابقة كل الاجتماعات ديال الاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوروبي دائما تعترض على تواجد المنبر الأورو متوسطي للمنظمات الغير الحكومية أو كل ما يسمى بالمجتمع المدني والمكونات دياله. فكنظن اليوم هذه إشارة قوية من المجتمع التونسي اللي أعطى واحد الإشارة ماشي غير لتونس، كنظن في الجنوب المتوسط وماشي غير في الجنوب المتوسط، في الفضاء المتوسطي، لأن هذه ثورة محلية إنتاج محلي لم تصدر من الخارج، لم تكتب لها خارطة الطريق من الخارج، ونرفض أن يتم الاستحواذ عليها اليوم بأي صيغة من الصيغ من الآخرين كيفما كان هذا الآخر في احترامنا له وفي احترامنا لعمله. طبعا مكونات المجتمع المدني عادة كما قيل هذا الصباح هي ليست بديل عن الأحزاب ولا عن النقابات وعن الدولة، وهذه المسألة يجب الحذر فيها والاحتياط منها بشكل كثير، لأن في مرحلة انتقالية بحال هذه كنظن غادي يكون حماس كبير وانتظارات كبيرة وطلبات كبيرة، لكن هناك حامل المشروع السياسي واللي هم الأحزاب، بغض النظر هل الأحزاب موجودة أم غير موجودة، هل ضعيفة أم غير ضعيفة، هل هي متورطة وحدود هذا نقاش، لكن المجتمع المدني ليضمن دائما استقلاليته وقوته هي القوة نتاعه، هي في القوة الاقتراحية دياله، هي في القوة ديال التعبئة دياله، هي في القدرة دياله على مواكبة التحولات وعلى مراقبة بعض المحطات ومن ضمنها الانتخابات. وحتى هذه المرحلة الانتقالية اللي مثلا كنعيشوها اليوم في تونس، أنا عندي قناعة شخصية وقلت للعدد كثير ديال الفاعلات والفاعلين في المتوسط باللي لي زاكتور دو لا سوسيتي سيفيل ديال تونس عندهم ما يكفي من الخبرة والتجربة، سواء اللي كنعرفوهم أو اللي ما كنعرفوهم، باش يواكبوا هاد التحولات. ولكن أنا أؤكد يجب الانتباه من انزلاق أو من الخلط بين ما هو سياسي سياسوي وبين ما هو أفق ديال المجتمع ككل، كنظن هذا هو المهمة ديالنا. كذلك في هاد المرحلة اللي مهم القوة ديال المجتمع المدني هي في صناعة رأي عام وصناعة أفكار وصناعة قضايا اللي السلطة من جهة غتحاول تستعملها أو تتعامل معها أو توظفها، واللي كذلك الأحزاب والنقابات غادي تحاول أو كل قوى الاجتماعية غيمكن تحاول، لكن القوة ديال خلق رأي عام بأنك تكون القوة ديال الحركة الاحتجاجية قائمة مستمرة منتبهة ومتطلعة إلى دائما أشياء جديدة. بدون شك أن الحركة الجمعوية أو الحركة المكونات المدني هي كثيرة ومتنوعة، ولذلك كنظن الاهتمام بالقيم المشتركة هي الأساسية، وكنظن القيم المشتركة يمكن تكون اليوم هي الديمقراطية، هي حقوق الإنسان، هي المساواة، هي العدالة، هي السلم، هي حرية التجمع، وهي حرية تكوين الجمعيات. كنظن إذا اتفقنا على هاد العناصر ديال القيم وضفنا لها ما سمعناه في الساحة من حركات ومن مطالب ديال الكرامة والعدالة والحرية، واللي هي في نهاية المطاف المطالبة بالمواطنة ودولة الحق والقانون، كنظن كل التنظيمات المدنية سواء كانت في المجال حركة النسائية أو الفنية أو الثقافية أو الحقوقية أو الشبابية غادي يمكن لها تجعل أو تلقى ذاتها في هذا الإطار ديال الدفاع عن واحد القيم المشتركة اللي غيتقسمها الإنسان مع المواطن العادي والبسيط ومع المواطنة والمواطن المتنور اللي يمكن يكون حامل ديال المشروع. ولذلك ربما في هذه المرحلة الانتقالية أنا أظن كما قالت إيديت دور المجتمع المدني أساسي، لأنه مش غادي يقوم غير بتشخيص فقط ديال الوضع اللي الآن معروف عند الجميع، ولكن هي محاولة جماعية في الإبداع، ولكن في إبداع ديال المساهمة في البحث وفي محاولة البحث عن قواعد لأجوبة مشتركة، عن مش أجوبة لقواعد عن أجوبة مشتركة، لأن هذا هو اللي يخلي الدينامية الجماعية تكون فيها تفاعل. كنظن واش غيكون مفيد اليوم في هذه التجربة الأولى في تونس أو في غيرها، نفكروا في واحد المجلس الوطني ديال الجمعيات اللي كيتقسم بعض القيم وبعض المهام، واش يمكن يلقى موقعه في المؤسسة الدستورية البلاد. هذه أسئلة ربما السياق العام ديال التجربة هو اللي غادي يجاوب عليها. في الأخير نقطتين، النقطة الأولى كنظن المنبر الأورو متوسطي كيعيش واحد الأسئلة ذاتية، لأنه هو انبثق من مسلسل ديال برشلونة وتحول الاتحاد لأجل المتوسط، وبعد سنتين أو من تأسيسه من الاتفاق في 2004 في قبرص على الميثاق والتأسيس في لوكسمبورغ على هذا المنبر، يعني أشياء كثيرة تعملت من 2005 إلى اليوم، يعني عدد كثير ديال فضاءات الحوار والتلاقي والمشاورة بين مكونات المجتمع المدني في التعدد ديالها وفي التنوع ديالها، وكذلك المحاولة في تأثير بعض القرارات السياسية لدى الاتحاد الأوروبي ولدى بعض المؤسسات الأوروبية. لكن اليوم مع جمود وربما فشل هذا المسلسل كيطرح سؤال علينا، كيف يمكن لنا نقولوا واش غادي نستمروا في الحياة أو نوقفوا هذه العملية. في هذا الوقت هذا كتجي الأحداث في الجنوب المتوسط اللي كتعطينا نفس جديد واللي كتطرح علينا أسئلة جديدة واللي غتجعلنا في المنبر وأننا نطرح أسئلة على الأعضاء دياله وعلى المكونات دياله، ماذا نريد للعمل المشترك في المتوسط بين مكونات المجتمع المدني شمالا وجنوبا، بأية رؤية، لأي أفق سياسي ومجتمعي، بأية تعاملات مع الجهات المحاورة. وكنظن كذلك في هذه المناسبة بدون شك في الظرف الراهن تأسيس شبكات ديال المجتمع المدني الأورو متوسطية المحلية اللي كتقاسم معنا الميثاق ديال قبرص، كنظن اللي عملناها في المغرب وفي فرنسا وإسبانيا ومصر، كنظن تونس اللي كانوا العناصر ديالها سبقة إلى تفكير وتأسيس وتفعيل هذا المنبر، ممكن تكون إلا شبكة تعطي نفس جديد وتحاول تعطي أفق سياسي جديد لهذا المنبر. أحييكم مرة أخرى وأعبر عن سعادتي بتواجدي في هذا اللقاء، وكتحية لكل تائرات والطوار في تونس، كيمكن لي ولو رمزيا نوضع واحد الوردة ديال المحبة وتقدير على صدور كل تونسيات والتونسيين. شكرا لكم.
شكرا عبد المقصود صديق العزيز علينا. Juste pour rappeler que nous avons récupéré une partie de notre retard, donc on n'a qu'une demi-heure de retard, c'est déjà pas mal. Tout à l'heure, on avait plus d'une heure. Rappelez aussi que les traductions ou l'interprétariat dans les ateliers sont, les langues de travail sont français et arabe. Pour les amis qui ont des difficultés, notamment en anglais, on peut arranger les choses. Maintenant, on aimerait bien savoir combien ils sont ici, on ne sait pas. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de problème, la traduction se fait de dans les deux langues, arabe et français. Maintenant, nous allons avoir une petite pause, s'il vous plaît, pour ne pas encore aggraver le retard, pour se mettre tout de suite aux travaux dans les ateliers, en vous rappelant les différentes salles, je crois, si vous avez besoin. Toutes les salles sont en face, dans le couloir en face. Ici, c'est la salle de la justice. Oui.